Chapitre 30. Sur la colline des poussières. L'armée des soldats de la flamme était arrivée la veille dans le petit village désolé de l'ouest galatien. Atarmaja avait été dévastée par la première invasion des Touatanes, et on ne l'avait toujours pas reconstruit, abandonnant ses ruines au sable et au vent. Seuls quelques bâtiments tenaient encore debout, et l'armée de Feren Alroeg n'avait utilisé que les points d'eau et quelques abris. L'essentiel du campement avait été établi en retrait, sous l'ombre protectrice des sommets blancs de Gordraka. Le village n'était plus que désolation. Son histoire passée subsistait à peine dans les vestiges de pierre et de bois. Quand Merian Mor le Bel arriva en haut de la vallée, à la tête de son armée de Brunois, au sud du village, il reconnut tout de suite la bannière de l'Arcourt, flamme rouge sur fond blanc, qui flottait en haut des lances et parmi les ruines d'Atarmaja. Feren Alroeg, le comte chrétien, était déjà au rendez-vous. Il y avait là bien plus de soldats de la flamme que Merian ne l'avait imaginé. 15 000 peut-être. La vallée tout entière était couverte de grandes tentes blanches installées par l'armée arcourtoise. Les soldats d'Alroeg grouillaient autour du village comme des fourmis autour de leur fourmilière. Maintenant seulement, Merian prenait conscience de l'ampleur qu'allait prendre le conflit. L'armée était si nombreuse. Il y avait là plus de combattants qu'il n'en avait jamais vus réunis. La perspective d'un véritable massacre se dessinait déjà dans son esprit. Aeditus arriva soudain à côté de lui. « C'est un spectacle impressionnant, n'est-ce pas ?» demanda l'évêque avec un soupçon de fierté dans la voix. Merian acquiesça. « Oui, impressionnant, » pensa-t-il. Mais l'impression qu'il me fait n'est sans doute pas la même qu'à vous. » Le comte se retourna et ordonna aux messagers de descendre dans la vallée pour annoncer leur arrivée imminente au comte d'Harcourt. Merian jeta un dernier coup d'œil à la vieille ville dévastée, puis il fit signe aux généraux de reprendre la route. Les 8 000 Brunois se remirent en marche, portant haut le blason du comté, chimère argentée. La dernière fois que l'armée brunoise s'était battue aux côtés de l'Harcourt, elle avait remporté une victoire mémorable contre les barbares du Cid. La plupart des soldats étaient donc heureux de retrouver cet allié précieux. Mais la victoire était tout, sauf certaine. Quand ils arrivèrent enfin aux portes du campement, les Brunois furent accueillis chaleureusement par les soldats de la flamme. Certains officiers même, qui avaient partagé la victoire de Sablon, se retrouvèrent avec plaisir. On évoquait des souvenirs, des faits d'armes, des soldats disparus. Merian et Aeditus, quant à eux, furent guidés dès leur arrivée vers la tente du comte d'Harcourt. Ils traversèrent le grand campement au milieu des soldats au repos, puis remontèrent vers la petite butte où s'était installé Feren Alroeg.
« Entrez, mes amis, entrez !»
les invita-t-il en se levant. Le comte baisa la bague de l'évêque et salua Merian chaleureusement. Il était visiblement excité par les événements qui se préparaient, et peut-être fier de se retrouver à la tête d'une armée aussi gigantesque. Les trois hommes prirent place autour d'une petite table, où on leur servit un vin doux et sucré.
« Je suis heureux de vous retrouver, monseigneur, » reprit Alroeg en levant son verre vers l'évêque. « J'espère que votre voyage en terre brune s'est bien passé. On m'en a dit grand bien. »
Les Brunois se sont montrés très accueillants, confirma Aeditus. Après le baptême de Mériande, ils ont été nombreux à vouloir se convertir. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu beaucoup de temps. Il n'y a presque aucune structure religieuse là-bas pour le moment. Mais le comte Mor fait construire une cathédrale à Méricourt et je pense que le mouvement va pouvoir s'étendre.
Parfait! Félicitations!
S'exclama Alroeg en adressant un sourire au comte de Terrebrune. Mais Merian ne répondit pas. Il n'était pas venu ici pour parler religion, et pour lui, il valait mieux éviter le sujet.
« Quelles sont les nouvelles concernant l'affaire qui nous occupe aujourd'hui ? » demanda-t-il d'un air grave. « Nos espions nous rapportent plutôt de bonnes nouvelles, » répliqua Alroeg en se redressant sur sa chaise. D'abord, l'armée d'Aléa, qui se fait appeler « Armée de la Terre », m'a-t-on dit, n'a pas quitté Tarnéa. Il semble vouloir y rester, s'installer dans la ville et protéger la Sarre. Et c'est mieux ainsi. On sait au moins que pendant ce temps-là, ils ne viendront pas déséquilibrer notre combat contre la Galatie. Nous avons perdu Tarnéa. Nous ne perdrons pas la bataille contre la reine.
Espérons-le, soupira Mériande.
Quant à la Galatie, justement,
continua Alroeg en ne prêtant guère attention au scepticisme de son allié.
Il semblerait qu'un conflit soit en train de naître entre les druides et les généraux. Exactement ce que j'avais prévu. Et cette zizanie politique risque de faire nos affaires, car la Galatie n'aura pas le temps de préparer sa défense.
Ils doivent déjà savoir que nous sommes en marche, fit remarquer Mériande. Notre armée est trop nombreuse pour passer inaperçue.
Sans doute, admit Alroeg. Mais nous repartirons dès ce soir. Si tout se passe bien, nous attaquerons dans 3 jours. Qu'ils soient au courant ou non, cela ne change rien. Nous ne leur laisserons pas le temps de s'organiser, j'en suis sûre.
Je l'espère.
Combien d'hommes avez-vous ici ?
Demanda finalement le comte de Terrebrune.
14 000,
répliqua fièrement Alroeg. Avec l'armée que je vous apporte, cela nous fait donc un total de 22 000 hommes, conclut Mériande. Je ne pense pas que la Gaëlia ait jamais vu plus grande bataille. Que Dieu nous garde, souffla Éditus.
Que Dieu nous donne la force de gagner,
corrigea Alroeg avant d'avaler son verre de vin d'une seule traite.
Que Dieu nous pardonne,
pensa Mériande, et il but le vin à son tour. Tamaran, le loup borgne, partit si vite vers le nord qu'il n'entendit bientôt plus ses compagnons derrière lui. Mais il ne pouvait s'arrêter. Les verticaux approchaient. Et ils étaient nombreux. Les loups n'étaient plus sur leur territoire à présent, et Tamaran ne connaissait pas la forêt. Il ne savait où fuir, et se contentait de partir dans le sens opposé à la menace. Pour l'instant, le grand loup brun ne pouvait ruser, brouiller les pistes ou trouver un cours d'eau à franchir. Ses poursuivants étaient beaucoup trop près. Non, pour l'instant, il devait fuir. Simplement fuir. Les distancer. Alors il galopait, de toutes ses forces, fouetté par les branches basses qui lui barraient la route, évitant les fossés, enjambant les souches et les troncs morts, manquant perdre l'équilibre plusieurs fois dans des amas de branchages. Le sol de la forêt se mit soudain à monter. Le loup essaya de ne pas perdre de vitesse. Il devait pousser de plus en plus fort sur ses pattes, grimper sans faiblir. Et la fatigue gagnait. Mais il continua. Il courut jusqu'en haut de la pente, glissant sur le feuillage humide et froid qui couvrait toute la côte. Quand enfin il arriva au sommet, il ralentit sa course et jeta un coup d'œil derrière lui. Il entendait toujours les cris des verticaux et le claquement de leurs bâtons de bois contre le tronc des arbres. Mais ils étaient loin à présent. Le vacarme résonnait beaucoup plus bas, sans doute au tout début de la pente. Il n'avait pas suivi. La langue pendante, Tamaran fit une courte pause. À bout de souffle, les muscles fatigués par la course, il respirait beaucoup trop vite, étouffé par la chaleur de sa fourrure. Son ventre semblait battre tellement il soufflait fort. Il resta un instant immobile sur ses pattes, lançant régulièrement des coups d'œil vers le bas de la pente pour voir si les verticaux n'approchaient pas. Et soudain, il entendit un bruit étrange juste au-dessus de sa gueule. Sursautant, il fit volte-face d'un seul bond. Un long bâton pointu venait de passer entre ses deux oreilles, et en face de lui, il découvrit les yeux menaçants d'un vertical, à quelques pas seulement. Celui-ci, sans le quitter du regard, attrapa un autre bâton aiguisé dans son dos et le mit dans le dispositif qu'il tenait devant lui et qui lui servait à projeter la pointe. Le loup n'hésita pas un seul instant. Tout lui criait « danger ». Tout lui ordonnait de fuir. Pivotant vers l'ouest, il se projeta sur ses pattes avant et plongea gueule baissée à travers les arbres en gémissant. Lui qui avait si souvent chassé. Aujourd'hui, il devenait la proie. Jamais il n'avait ressenti une peur si forte, pas même lors des nombreux affrontements avec les loups des autres clans. Non, cette fois-ci c'était la peur de la chasse. Une peur bien plus profonde, que seul l'instinct de survie pouvait faire taire pour offrir aux loups une chance. une toute petite chance. Soudain, alors qu'il atteignait sa vitesse de pointe, Tamaran reconnut derrière lui le bruit strident du projectile. Ne sachant d'où il venait, par instinct ou par peur, il se laissa glisser sur le côté et cela, sans doute, lui sauva la vie pour cette fois. Le bâton de bois le manqua de peu et alla se planter dans un arbre devant lui. Les 10 compagnons avaient pris la route longtemps avant le lever du soleil. Aléa ne voulait pas que leur départ de Tarnéa soit découvert, et elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour que nul, au comté de Sar, ne sache qu'ils étaient partis. Ils durent donc traverser le pont du Griffoul avant que les Tarnéens soient levés, pour éviter que la foule les acclame, ce qui aurait bien sûr compromis définitivement le secret de leur voyage. Quand le soleil apparut dans le ciel, Aléa et ses compagnons étaient déjà loin de la capitale, galopant à travers la lande sur leurs chevaux sarrois. Ils voyageaient à l'écart des routes et des villages pour ne rencontrer personne, coupant tout droit à travers le sud du comté. Quand l'astre doré fut au plus haut dans le ciel, ils s'arrêtèrent pour manger. Aléa, Erwan, Kaitlin, Fingin et Mjoln partageaient visiblement la même émotion. Ils savaient tous que dans les jours qui venaient se jouerait la dernière grande bataille. Le moment de vérité. Celui où Aléa allait pouvoir ou non imposer une Gaëlia nouvelle. Mais ils partageaient aussi une joie nostalgique de retrouver la route, ensemble, sans les milliers de soldats dont ils devaient assumer la responsabilité. Juste ensemble, en communion. Ils avaient conscience que c'était ces moments-là qui avaient soudé leur groupe par le passé, et ils savaient que l'avenir ne leur offrirait pas forcément de nouvelles occasions d'être si proches. Alors ils profitaient de chaque instant. Et malgré le danger qui menaçait leur lendemain, ils se sentaient bien. Comme deux jeunes couples et un vieil ami qui attendait encore tant de la vie. Pendant le repas, les conversations furent douces et amicales, et les grands druides participèrent eux aussi à ces moments de chaleur. Mjoln raconta à Aléa son initiation au rang de barde. Kaitlin et son oncle Kiaran partagèrent de très vieux souvenirs de cheminants. Aléa écoutait chacun avec attention, tenant la main d'Erwan, heureuse de pouvoir offrir quelques minutes de tranquillité à ses plus chers amis. En outre, ce premier repas avait quelque chose de spécial. Comme des prémices au changement qu'allait connaître l'île. Car dans cette petite troupe de voyageurs, les grands druides semblaient réapprendre à vivre plus simplement. Sans leur magistèle, sans leurs serviteurs et sans la crainte dans le regard des autres. Ici, tout le monde se parlait d'égal à égal. Et à la fin du repas, signe que l'esprit de communauté l'avait vite emporté, tout le monde se tutoyait. Il n'y avait plus d'archidruides, plus de Samil Danak, plus de général ou plus de grand druide, mais simplement 10 compagnons qui avaient déjà accepté, sans le dire, ce que Kiaran avait annoncé la veille. Accepter que l'île changeât simplement d'âge. Ils se remirent en route au début de l'après-midi, chevauchant à travers la lande aussi vite que le leur permettaient les chevaux, et ne s'arrêtèrent qu'à la tombée de la nuit, au-delà de la frontière de la Galatie, au nord du fleuve pourpre. Le soir, ils reprirent leur conversation, écoutèrent avec plaisir les morceaux de cornemuse que Mjoln interprétait à présent avec une finesse remarquable et une grande émotion. Puis ils partirent se coucher les uns après les autres. Ils ne seraient pas à Providence avant 2 ou 3 jours, mais l'idée de partager la route dans de si bonnes conditions les enchantait tous, y compris les grands druides. Ils semblaient ne plus souffrir de la crise qui les avait amenés là, ne plus regretter Saïmina. Peut-être comprenaient-ils ce que Félim et Fingin étaient allés chercher au dehors du conseil. Un peu de vérité. Voyant qu'il s'apprêtait à rejoindre sa couche, Aléa demanda à Kiaran s'il voulait bien marcher un peu avec elle, dans la nuit. Le druide, qui sans doute attendait ce moment avec impatience, s'en réjouit et l'accompagna en lui tenant le bras. « Je suis heureuse de te revoir enfin, Kiaran, et je te remercie pour tout ce que tu as fait. » « Oui, et cette nuit est fort belle, n'est-ce pas ?»« Tu as sûrement autre chose à me dire que des remerciements, non ?» Aléa sourit. Puis elle frissonna. Elle n'était pas très couverte, et il commençait à faire froid au cœur de cette nuit d'automne.
J'ai revu Félim, dans le monde de Jar, dit-elle finalement.
Le grand druide s'arrêta.
Félim?
Oui.
Il est parvenu à sortir du monde des morts?
Oui, pour la deuxième fois, confirma Aléa.
Félim était bien un druide exceptionnel, s'exclama Kiaran en souriant. Comme il me manque.
Puis il attrapa Aléa par l'épaule.
Tu as de qui tenir, n'est-ce pas?
Aléa prit la main du grand druide et la serra affectueusement.
Merci.
Mais ce n'est pas tout.
Je t'écoute.
Félim m'a dit que je devais tuer Maul Morda avant que le Saïman ne disparaisse.
Kiaran resta silencieux un instant, se grattant le menton d'un air pensif.
Il craint sans doute que l'Ahriman ne survive au Saïman, conclut le grand druide.
C'est en effet ce que j'ai deviné à travers ce qu'il m'a dit.
Marmonna le druide. C'est intéressant.
Il resta un moment silencieux, puis soudain Kiaran frappa violemment dans ses mains, comme s'il venait de comprendre quelque chose.
Parle à Moira, s'exclama-t-il. Mais oui, il a raison, il faut nous dépêcher.
Pourquoi ?
Kiaran hésita.
Cela a déjà commencé,
murmura-t-il avec son air mystérieux.
Aléa fronça les sourcils.
Pardon ?
Tu n'as pas remarqué ? S'étonna le grand druide.
Remarqué quoi ?
Le Saïman commence à disparaître, expliqua Kiaran en grimaçant.
La jeune fille écarquilla les yeux, perplexe.
Oui, reprit Kiaran, cela doit être cela. Je n'ai pas réussi à retourner dans le monde de Jar depuis plusieurs jours, Aléa.
Mais c'est impossible.
Pourquoi?
Parce que la prophétie dit que le Saïman disparaîtra uniquement quand j'aurai compris ce qu'il est.
Peut-être as-tu commencé à comprendre, mais sans t'en rendre compte.
Cela n'a aucun sens, Kiaran. Soit on comprend, soit on ne comprend pas.
Le grand druide haussa les épaules.
Tu n'as vraiment pas avancé dans ta réflexion sur ce sujet?
J'ai lu un chapitre de l'encyclopédie d'Anali, mais je n'ai rien appris. Simplement que le Saïman consistait, d'après Anali, en trois forces naturelles, et non pas un pouvoir magique, mais...
Pardon, s'exclama le druide. Et tu dis que tu n'as pas avancé? Aucun druide au conseil n'aurait jamais admis une chose pareille.
Mais toi, tu cherches.
Si, Aléa, je crois que tu as avancé. Et c'est pour cela que le Saïman commence à disparaître.
La jeune fille resta bouche bée. Les prophéties lui avaient toujours paru si lointaines, si floues, si abstraites, comme un conte merveilleux auquel elle ne croyait qu'à moitié. Et pourtant, était-elle vraiment en train de se réaliser?
Si tu dis vrai, Kiaran, alors il va vraiment falloir que j'aille affronter Maul Morda au plus vite, car sans le Saïman, nous ne pourrons pas le battre. Et alors il sera trop tard. Crois-tu que je doive abandonner ce que je voulais faire à Providence?
Non. Il nous reste encore un peu de temps. Il faut que tu puisses faire les deux. Si tu pars tout de suite chercher Maul Morda, il risquera d'être trop tard ici aussi, pour les gens de la Gaëlia.
Mais le temps presse, s'exclama Aléa.
Alors il faudra faire vite.
La jeune fille acquiesça. Elle entendait battre son cœur. Fermant les yeux, elle entra en contact avec le Saïman au fond d'elle-même. La flamme bleue était toujours là. Il lui semblait qu'elle brillait toujours avec la même intensité. Et si Kiaran se trompait? Si le Saïman n'avait pas encore commencé à disparaître?
Kiaran, demanda-t-elle, peux-tu chercher le Saïman maintenant?
Le druide acquiesça. Lentement, il ferma les yeux. Il inspira, puis il ouvrit les mains devant lui. Alors Aléa vit apparaître la lumière, la teinte rouge qui se dessina tout autour du druide, le halo du Saïman. Et elle vit que Kiaran n'avait pas menti.
L'intensité du halo n'était pas la même qu'avant. Le Saïman avait perdu de sa force. Tamaran se releva et partit vers le nord cette fois. Il entendit s'éloigner les cris du vertical derrière lui et comprit qu'il arrivait enfin hors de portée. Mais il ne s'arrêta pas pour autant. Il savait à présent qu'il ne fallait plus s'immobiliser. Les verticaux étaient partout, dispersés dans la forêt. Il fallait fuir. Sortir de ce grand piège où la meute était venue elle-même s'enfermer. Voyant tout au bout d'une longue rangée d'arbres les rayons du soleil, le loup borgne accéléra sa course. Il allait enfin avoir une chance de quitter la forêt. Il ne savait s'il retrouverait sa meute, mais ce n'était pas le but de sa course. Pour le moment, il s'agissait simplement de survivre. Se faufilant à travers les arbres, puisant dans ses dernières forces, le loup se précipita vers la lisière de la forêt, la queue basse, la langue pendante, épuisée et terrorisée. Et c'est à ce moment qu'il entendit vers l'est les aboiements aigus d'une meute de chiens. Surpris, il s'immobilisa un instant, renifla l'air. Mais quand il comprit par le volume de leur grognement que les chiens n'étaient plus très loin, il se remit à courir aussi vite qu'il put. En temps normal, le loup aurait pu distancer sans peine ses lointains cousins. Mais il avait déjà trop couru, grimpé cette longue côte et échappé de peu aux deux assauts d'un vertical. Il n'en pouvait plus. Cependant, il essaya de fuir. Plongeant de nouveau vers la lisière de la forêt, il faillit tomber plusieurs fois tant il manquait de force. Alors qu'il n'était plus qu'à quelques pas de la lande, au-delà des arbres, il entendit les aboiements des chiens qui se rapprochaient. La meute fonçait droit sur lui. Le loup se précipita en avant, brûlant ses dernières forces pour sortir de la forêt. Quand enfin il fut au dehors, sans attendre, il fit volte-face pour se préparer à affronter les chiens. Lentement, il reculait, pas après pas. Et quand il aperçut les premiers coureurs de la meute, il prit une posture agressive, babine retroussée, exhibant ses crocs, fourrure hérissée, dos rond. Il poussa des grognements graves pour avertir les chiens qu'il était prêt à se battre et pour tenter de les impressionner. Mais les chiens étaient nombreux, et ils avançaient vers lui en ligne, s'apprêtant sans doute à l'attaquer en groupe. Tamaran sentit qu'il était perdu. Levant la tête vers le ciel d'automne, il poussa un hurlement plaintif, mais aucun des siens ne pouvait répondre. Les chiens approchaient, de plus en plus menaçants. Le loup se remit à grogner, mais il ne réagissait même pas, avançant toujours vers lui d'un pas sûr et régulier. Soudain, alors que le loup s'attendait à devoir se défendre, tous les chiens s'arrêtèrent en même temps. Le loup n'eut pas le temps de comprendre. Cette fois-ci, il n'entendit pas la flèche. Elle lui transperça le crâne et il mourut aussitôt, s'effondrant dans la lande, à quelques pas des chiens. Il fallut trois longues journées aux 22 000 soldats de l'Arcourt et de la Terre Brune pour arriver enfin dans la vallée de Providence, au cœur du royaume. Trois longues journées de marche intense, avec de moins en moins de pauses et des nuits de plus en plus courtes. Ils avançaient, stoïques, dans le vent frais de l'automne, marchaient vers la capitale pour livrer leur ultime combat. C'était une longue colonne d'armures brillantes, de piques et de halbardes qui avait traversé la lande galassienne, les bannières flottant dans les rayons d'un soleil mourant. On voyait à perte de vue des rangées de fantassins, arborant sur leurs côtes les armoiries des généraux qu'ils suivaient, des régiments de cavalerie, montures couvertes de robes brodées de blasons, chevaliers écrasés par leurs lourdes armures, s'appuyant d'une main sur les arçons sculptés de leurs larges selles et tenant dans l'autre les longues lances de frêne sur les feutres qui dépassaient des harnachements.
« L'armée galassienne est déjà en place !» annonça un éclaireur en revenant au soir du troisième jour vers les comtes d'Arcourt et de Terre Brune.
Alroeg et Mor accompagnaient le convoi de tête avec le général Rutter. Le jour des combats, bien sûr, ils resteraient en retrait au poste de commandement. Mais pendant le voyage, ils aimaient aller à l'avant des troupes.
« Nous sommes arrivés trop tard pour imposer notre champ de bataille !»
maugréa Alroeg.
« Ils auront sans doute l'avantage du terrain !»
« Nous ne les surprenons donc pas autant que nous l'avions espéré, » intervint Mérian de Mor. Combien sont-ils ?
S'enquit le général Rutter.
J'en compte 25 000,
bredouilla l'éclaireur.
Peut-être plus.
Alors ils auront aussi l'avantage du nombre,
grogna le comte de Terrebrune. La nouvelle risquait de ne pas renforcer le moral des troupes.
Où sont-ils exactement ?
Reprit Alroeg.
Au sud de Providence, dans la vallée des poussières, un véritable champ de bataille, un grand rectangle d'herbe, entouré de tous les côtés par des colonnes d'arbres. Malgré ce que vous dites, je ne vois pas vraiment d'avantage pour leur position. La pente est la même aux quatre coins, il n'y a pas de fossé, pas de surprise à ma connaissance.
Il y a forcément un avantage pour eux,
répliqua le général Rutter.
Ils n'ont sûrement pas choisi cet endroit par hasard.
Toute la question est de savoir si nous aurons le temps de découvrir leur avantage avant d'en subir les conséquences,
enchaîna le comte de Terrebrune.
Envoyez de nouveaux éclaireurs et demandez-leur de faire le tour du champ de bataille pour voir s'il y a un piège ou quelque surprise qui nous attend,
ordonna Alroeg. Le soldat salua et partit répéter les ordres du comte.
La nuit va bientôt tomber,
reprit le général Rutter.
Et nos hommes sont épuisés. Il ne serait pas sage d'attaquer dès ce soir. Pensez-vous que nous devrions nous arrêter ici et ne rejoindre le champ de bataille que demain ?
Le général poussa un soupir.
Oui. Ou nous avons peut-être mieux à faire.
Je vous écoute, l'engagea Alroeg.
Nous pourrions faire croire à l'ennemi que nous nous arrêtons ici, en effet. Puis cette nuit, descendre sur le champ de bataille et attaquer avec les premiers rayons du soleil.
Nos hommes n'auront pas beaucoup dormi, objecta le comte d'Harcourt.
Non, mais nous bénéficierons d'un effet de surprise.
Si vraiment nous parvenons à amener 22 000 soldats dans cette vallée sans nous faire repérer par leurs sentinelles,
répliqua Mériande, sceptique lui aussi.
Ce ne sera pas aisé, certes, mais cela peut en valoir la peine. Il faudra attendre le plus tard possible, et il faudra que nous ayons vraiment l'air de nous être installés ici pour la nuit. Mais si nous y parvenons, je crois que nous prendrons un avantage considérable. Après tout, l'écart numérique entre nos deux armées n'est pas si grand, et cet avantage-là pourrait faire toute la différence.
Imala et Taïbron étaient parvenus ensemble à échapper aux verticaux en galopant vers le nord l'un à côté de l'autre. Mais quand ils entendirent le hurlement de Tamaran, leur instinct de dominant les poussa à le rejoindre. C'était un cri de détresse, déchirant, dont ils ne connaissaient que trop bien la signification. Ayant quitté la forêt depuis peu, ils n'étaient pas loin de la lisière et entendaient déjà les aboiements des chiens. Ils coururent aussi vite qu'ils purent, rasant l'herbe jaune, la queue droite. Malgré la fatigue et la peur, ils galopèrent de toutes leurs forces pour aller sauver leurs frères. Mais quand ils arrivèrent, il était déjà trop tard. Le vertical venait de tuer Tamaran. En voyant le chasseur au-dessus de leurs compagnons, les loups auraient déjà dû fuir depuis longtemps, s'échapper au plus vite, ne songer qu'à survivre, obéir à la peur primaire. Mais Imala n'était pas une louve comme les autres. Et en voyant ainsi le vertical, soudain, son esprit se souvint. Comme des images qui défilaient dans sa mémoire, les souvenirs revenaient les uns après les autres. Enfoui derrière son instinct de louve, derrière sa nouvelle vie avec la meute de Loma. Mais maintenant elle se souvenait. Elle se souvenait de la verticale qu'elle avait rencontrée, des verticaux qui l'accompagnaient. Elle se rappelait qu'elle les avait protégés, qu'elle avait réuni les siens pour les défendre, qu'ils s'étaient battus contre les créatures vertes, qu'ils étaient morts en nombre pour sauver les verticaux. Qu'ils étaient morts pour eux. Alors à présent, elle n'avait plus peur. Plus peur des verticaux. Mais elle ne comprenait pas. Pourquoi un vertical avait-il tué l'un des siens? Alors que Taïbron s'apprêtait à rebrousser chemin, Imala se mit à grogner. Le vertical sursauta. Il fit volte-face et découvrit les deux loups à quelques pas de lui. Taïbron, surpris, regarda la femelle blanche à ses côtés, puis il poussa à son tour des grognements agressifs. Les deux dominants firent quelques pas en avant, le museau retroussé, exposant leurs crocs et baissant la tête dans une posture menaçante. Ils virent alors la peur dans les yeux du vertical. Celui-ci tourna lentement la tête pour appeler ses chiens, mais ceux-ci, visiblement, avaient eu peur, eux aussi, et s'étaient enfuis depuis longtemps dans les sous-bois vers le sud. Poussant un cri aigu, le vertical partit en courant, abandonnant derrière lui son sac, son arc et le cadavre ensanglanté du loup borgne. Mais Imala et Taïbron ne le laissèrent pas s'échapper. D'un même élan, excités par la fuite du vertical, ils coururent derrière lui, animés d'une ardeur nouvelle, et il ne put s'enfuir bien loin. En quelques foulées à peine, les loups l'avaient rattrapé. Taïbron sauta sur ses jambes et prit sa cuisse à pleine gueule. Le vertical s'écroula en hurlant, mais son cri s'éteignit bien vite. Profitant de sa chute, Imala lui sauta à la gorge, et il mourut au deuxième coup de croc. Belly fut réveillée en sursaut par l'un des soldats de la garde royale.
« Maître, maître, l'Harcourt attaque !»
Le conseiller se dressa d'un bond, perplexe. Il regarda autour de lui, mit un moment à comprendre, à se souvenir qu'il était dans une tente militaire, au sud de Providence.
« Quoi ? »
balbutia-t-il.
« Les armées d'Harcourt et de Terre Brune sont en place dans la vallée. Leur cavalerie vient de donner l'assaut alors que nos hommes n'étaient pas encore réveillés. L'archidruide vous attend. »«
D'accord, d'accord. Dites-lui que j'arrive, » répliqua Belly, furibond. Il se leva, enfila son armure de cuir à la hâte, et quelques instants plus tard, il rejoignit Aenon en courant au sommet de la colline des poussières. Ce qu'il vit alors lui glaça le sang. Le soleil venait tout juste de se lever. Le monde était plongé dans une lumière étrange. Une brume grise avait envahi la vallée. Mais on devinait à travers les nappes opaques la foule des soldats. Les lances apparaissaient par instants, puis disparaissaient de nouveau sous la brume. Les chevaux qui passaient, les armures qui brillaient sous les premiers raies de lumière, le scintillement de la rosée sur l'herbe de la colline, tout se mélangeait dans un tableau confus où les sons eux-mêmes se perdaient dans l'écho de la vallée.
« Avec un peu de chance, » annonça l'archidruide en voyant arriver le conseiller, « la surprise ne leur aura fait gagner que quelques foulées. »
La longue robe blanche du druide se confondait avec la brume. On avait l'impression qu'il flottait au-dessus du mont.
« Comment avons-nous pu nous laisser surprendre ?»
s'exclama Belly en se frottant les yeux.
« La brume. Ils se sont installés pendant la nuit, sans doute. Mais nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, nous allons devoir mener à bien cette bataille, et ça ne va pas être aisé. Voyez plutôt. »
Petit à petit, la brume se dissipait et le soleil montait dans le ciel magenta, découvrant le drame qui se jouait plus bas, dans le chaos de fer dont la clameur parvenait à présent jusqu'à eux. Les deux armées étaient face à face, dans une symétrie absolue que sans doute les stratèges d'Harcourt avaient finement étudiée. Au centre, l'infanterie, le plus gros des troupes. 15 000 hommes du côté de la galaxie, un peu moins en face. Et de chaque côté de ces armées colossales, sur les flancs gauche et droit, la cavalerie. Alignement de chevaux bardés de fer, rangés de lances et de boucliers. Alroeg et les généraux d'Harcourt avaient reproduit à l'identique la formation de l'armée de Galassie, comme dans un miroir. Ils voulaient une guerre dure. Une confrontation directe. Chevalier contre chevalier, fantassin contre fantassin. Sans doute espérait-il empêcher ainsi les chevaliers de Galassie de prendre un avantage sur leur infanterie. Mais c'était une stratégie audacieuse qui augmenterait nécessairement le nombre des morts. À cet instant, Carla Bizani, la baronne, arriva à son tour en haut de la colline.
« L'attaque a commencé ?»
demanda-t-elle calmement.
« Oui, baronne, l'attaque a commencé. Par surprise. »«
Bah, » dit-elle. « Ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas que Giametta se soit fait surprendre. »«
Peut-être, » répondit Belly en soupirant. « Mais votre capitaine ne dirige pas toute l'armée. Ce n'est pas lui seul qui pourra nous sortir de ce pétrin. »
La baronne secoua la tête.
« Il est un peu agaçant, certes, mais je vous garantis que c'est un militaire surprenant. »
Belly ferma les yeux. Le cauchemar allait commencer. Ce furent les chevaliers du général Rutter, le flanc droit de l'armée d'Harcourt, qui donnèrent le premier assaut.
Profitant de la pente et de l'effet de surprise, ils tombèrent comme un seul bloc sur la cavalerie ennemie dès les premiers rayons du soleil. Les soldats de l'avant-garde galassienne eurent à peine le temps de sortir de leur tente quand ils virent jaillir les impressionnants chevaliers de la flamme. Magma de fer surgit des brumes comme des bateaux sur la mer. Ils venaient de partout, écrasant les fantassins, déchirant les toiles, étripant les premiers ennemis. Certains galassiens essayèrent de se défendre au sol, lançant des coups d'épée ou de masse sur ces dragons de métal. Mais en vain. Les harnois des soldats de Ruther étaient sans doute les plus perfectionnés de Gaelia. Armure de fer complète, polie à en devenir blanche, parfaitement articulée, elles étaient savamment ajustées par-dessus le gambison et la cotte de maille, et bien que complexes, ne pesaient pas trop lourd. Les genouillères en acier, les cuisseaux et les grèves en plaques protégeaient suffisamment les jambes pour que le bouclier ne fût pas trop long en bas, et l'armet qui bardait les yeux évitait enfin que l'écu soit allongé au-dessus. Les chevaliers de la flamme jouissaient d'une mobilité dont ils ne se privaient guère pour pourfendre l'adversaire. En outre, grâce à leurs nombreuses surfaces déviantes, des spalières jusqu'aux gantelets, ces armures étaient mieux protégées des flèches que tout autre dans le pays, et ceux dans le campement qui avaient saisi leurs arcs abandonnèrent bien vite cette méthode trop inefficace. Ils furent près de 5000 à charger de front, et de mémoire de soldats galassiens, on n'avait jamais vu chose si terrifiante. La lance couchée sous le bras droit, le côté gauche caché derrière le bouclier, ils empalaient leurs ennemis les uns derrière les autres, faisant souvent demi-tour pour remettre leurs chevaux en charge. Les premiers instants du combat furent un véritable massacre. Les Galassiens, à peine réveillés, étaient fauchés devant les tentes. Des gerbes de sang éclaboussaient les grandes toiles blanches à chaque coup de lance. Des têtes étaient tranchées sous la valse des lames. Pendant tout le temps qu'il fallut aux Galassiens pour s'organiser, l'armée d'Alroeg ne trouva aucune résistance et plus d'hommes moururent pendant les premiers instants du combat que pendant tout le reste de la bataille. Les chevaux piétinaient les cadavres pour avancer plus loin encore dans le camp endormi. Et jusqu'à ce qu'enfin les Galassiens remontent à cheval, pas un seul chevalier de la flamme ne fut défait. Quand les chevaliers de Galassie commencèrent à se défendre, montant sur leurs destriers pour affronter les hommes du général Ruther, il était déjà trop tard. Leur front avait cédé. La cavalerie les transperçait en surnombre. Feren Alroeg, posté en hauteur de l'autre côté de la vallée, regardait avec satisfaction l'ouverture des combats. Pour le moment, tout se déroulait comme prévu. Il ne parvenait pas à voir la ligne de front dans son intégralité, mais les messagers ne cessaient d'aller et venir entre le champ de bataille et le poste de commandement, afin de tenir informé le comte Alroeg, ses conseillers, Mérian de Mort et l'évêque Aeditus. Il n'y avait pas besoin de messager, toutefois, pour voir que les chevaliers du général Ruther étaient en train d'emporter haut la main le combat sur le flanc sud. Les Galassiens s'étaient laissés surprendre et pliaient sous la machine implacable de la cavalerie. Les soldats de la flamme, de ce côté du combat, auraient bientôt complètement percé les lignes ennemies. Il était temps maintenant que l'infanterie, au centre du champ de bataille, donne le second assaut. La panique du flanc sud déborderait sûrement sur le moral des fantassins et les acculerait, en tout cas contre l'ennemi. Et en effet, sous le commandement du général Asley, les 12 000 fantassins, portant au plastron la flamme rouge d'Arcourt ou la chimère de terre brune, avancèrent vers l'ennemi dans un vacarme grandissant. Les hurlements de l'assaut se firent bientôt si forts qu'ils couvrirent presque le bruit du métal qui s'entrechoquait et de la course dans la terre poussiéreuse de la vallée. Épée levée, lance dressée, la première rangée de fantassins s'élança, pendant qu'en deuxième ligne, les archers se préparaient. Flèches encochées, les arcs se levèrent les uns après les autres, cherchant dans le ciel la courbe idéale pour retomber sur les lignes ennemies. En face, les Galassiens, qui n'allaient pas se laisser surprendre une seconde fois, mirent aussitôt leur infanterie en branle. Portant sur leurs armures la couronne de diamants du blason galassien, les fantassins dégainèrent leurs épées, leurs haches et leurs masses d'armes, puis boucliers devant, chargèrent à leur tour. Les deux armées massives avançaient vers le cœur du champ de bataille, double parfait l'une de l'autre. Rien ne pouvait plus arrêter ces deux marées humaines qui allaient se déchirer. Le choc serait terrible. Plus de 20 000 hommes allaient s'affronter dans la poussière, face à face. Quand il ne resta plus que quelques foulées entre les deux fronts,
Le général Asley donna l'ordre aux archers d'Harcourt de décocher une première salve. Les boucliers se levèrent dans les rangs galaciens et se montrèrent fort efficaces. La plupart des flèches s'écrasèrent contre le fer des écus dans un éclat extraordinaire. Quelques soldats seulement furent fauchés par des flèches sournoises, mais la pluie de traits eut au moins l'avantage de ralentir les troupes du royaume de Galatie. Brunoise et Harcourtois ne laissèrent pas passer leur chance et tombèrent plus fort encore sur l'ennemi. Accélérant le rythme de leur course sur les derniers pas, hurlant, ils s'abattirent sur l'infanterie galacienne comme une colonne de taureaux furieux. Et le choc fut phénoménal, en effet. Il y eut des gerbes d'étincelles, là où le fer se croisait, des soldats projetés par la violence du coup, d'autres écrasés au milieu des deux fronts. Les épées s'abattaient au-dessus des haumes anasales pour assommer l'ennemi, puis elles frappaient de taille, comme de grandes faux coupant les blés. Les dagues se faufilaient dans les mailles des haubères, les piques empalaient, les masses fracassaient, et parfois en finissaient sans armes à se battre au poing, gantelets couverts de clous. Très vite, la hargne et la vitesse des soldats de la flamme surentraînés firent la différence. Bientôt, ils durent enjamber les cadavres de leurs ennemis défaits pour avancer sur l'adversaire, et petit à petit, ils gagnaient du terrain. Taillant leur route à travers la chair, tassés les uns contre les autres au milieu du massacre et du chaos. Feren Alroeg, satisfait de la tournure que prenait le combat, envoya un messager complimenter le général Asley. Partout, les Galatiens reculaient. Quand la cavalerie du général Rutter eut transpercé la ligne ennemie, celui-ci essaya de rassembler ses soldats pour préparer un nouvel assaut en remontant vers le flanc gauche de l'infanterie galatienne. Mais les chevaliers de la flamme avaient défait l'ennemi avec une telle hargne et une vitesse si grande qu'ils s'étaient éparpillés à travers tout le sud du champ de bataille. Et apparemment, aucun d'eux n'avait jugé bon de suivre les consignes habituelles de ralliement. La plupart étaient déjà partis plus loin vers l'est, décidés, semblait-il, à attaquer l'infanterie d'arrière-garde.
« Restez ici ! Regroupez-vous !»
hurla le général en rejoignant au galop la zone où les chevaliers auraient dû reprendre leur formation. Mais soit il ne l'entendait pas, soit, emporté par l'enthousiasme de la victoire, il refusait d'écouter ses ordres pour aller chercher une autre réussite sur l'arrière-garde de l'armée galatienne. Rutter pesta. Des années de combat lui avaient appris qu'après un premier assaut, la cavalerie doit se regrouper pour une deuxième salve.
« Ashkin !»
hurla-t-il en reconnaissant l'un des chevaliers qui passait devant lui. L'homme se retourna. Derrière lui, au loin, l'infanterie galatienne résistait péniblement à l'assaut des soldats de la flamme.
« Que font-ils ? »
hurla le général Harcourtois en désignant les chevaliers qui partaient vers l'arrière-garde.
« Je vous ai ordonné de vous regrouper !»
Ashkin amena son cheval près de celui de Rutter.
« C'est la confusion, mon général !»
Le jeune chevalier enleva son haume et fit glisser sur son cou le lourd capuchon de son haubert. Du sang coulait sur son front, et il avait l'air épuisé.
« La confusion ! Vous venez de remporter une splendide victoire sur tout le flanc sud ! Il n'y a pas de confusion là-dedans ! »
« Vous n'avez pas vu ?»
demanda Ashkin, perplexe.
« Vu quoi ?»
s'emporta le général. Le soldat tendit le bras vers la colline surplombant le couloir que les chevaliers venaient de franchir.
« Nous nous sommes fait tirer dessus tout le long par des archers qui sont cachés derrière ces rangées de sapins. Les flèches arrivent de biais et sont si nombreuses que certaines parviennent à nous faucher. Plusieurs d'entre nous sont tombés. »
Le général regarda vers les arbres, et il vit alors en effet les flèches qui continuaient de s'envoler depuis la butte. On ne les voyait pas depuis l'arrière du champ de bataille. C'était donc le premier piège que leur avaient tendu les Galatiens.
« Et alors ? »
reprit-il toutefois.
« Cela ne vous a pas empêché de briser la ligne ennemie ?»«
Non, mais je pense que les autres ont estimé qu'il n'était pas prudent de se regrouper sous les tirs des archers, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont partis vers le sud. »«
Sans attendre mes ordres ! Il y a l'arrière-garde là-bas !»«
Ils n'ont pas l'air si nombreux. Nous devrions pouvoir les battre sans problème. »
« Il faut toujours se méfier de l'arrière-garde !»
s'exclama le général.
« Allons les chercher ! Nous devons nous regrouper !»
Le jeune chevalier acquiesça, remit son haume, et ils partirent au galop vers le sud.
Cela ne serait jamais arrivé il y a 10 ans,
pensa Rutter, alors que son cheval rattrapait la cavalerie éparpillée.
Jamais on n'aurait agi ainsi sans attendre l'ordre d'un officier.
Mais avant que le général Rutter puisse rappeler ses troupes, celles-ci arrivèrent nez à nez avec l'arrière-garde. Et cette fois-ci, ce n'étaient pas de simples soldats galaciens. Pas de simples soldats du vieux royaume, non. Cette fois-ci, les hommes de Rutter allaient devoir se battre contre des mercenaires byzaniens.
N'allez-vous pas intervenir ?
Demanda Bélie, comme il voyait la colonne des chevaliers arcourtois qui fonçait sur l'arrière-garde.
Ils viennent de massacrer tout notre flanc sud, et maintenant ils attaquent l'arrière-garde.
Enon se frotta le crâne.
Grossière erreur, jugea-t-il. Ils auraient mieux fait de se regrouper juste après leur percée et de remonter sur le flanc de notre infanterie.
En attendant, ils attaquent notre arrière-garde. Je crois que le Saïman ne serait pas de trop pour que la victoire soit du bon côté, archidruide. Le conseil pourrait peut-être intervenir, non ?
Pas pour le moment, répondit Enon calmement. Pour l'instant, votre armée se débrouille bien sans nous.
Se débrouille bien ? Vous plaisantez ? Ils se font massacrer. Si vous interveniez tout de suite, on pourrait s'épargner de nombreux morts.
Nous n'interviendrons que si la situation est désespérée.
Bélie poussa un cri de rage.
Ah, vous autres druides, je me demande vraiment à quoi vous servez si ce n'est à semer la zizanie.
Faites attention à ce que vous dites, Bélie. Ma patience a des limites. Si j'estime qu'il n'est pas encore temps d'intervenir, c'est que j'ai mes raisons.
Le conseiller secoua la tête et retourna au poste de commandement, où la baronne de Bizagne, elle, restait silencieuse devant le champ de bataille. Ce n'était certes pas le moment de s'écharper avec l'archidruide. En plein combat. Mais tout de même, il ne comprenait pas pourquoi les druides refusaient de prendre enfin part au combat. N'étaient-ils pas les principaux alliés de la Galatie ? N'avaient-ils pas fait le serment de défendre le royaume ? Une chose était sûre, quand cette guerre serait finie, s'il était nommé roi, Bélie renverrait le conseil hors de Providence. Les druides ne servaient plus à rien, ils représentaient plus une menace qu'autre chose. En poussant un soupir, il posa un regard circulaire sur le champ de bataille. Des centaines de cadavres jonchaient déjà le sol poussiéreux. Et d'autres allaient suivre. Tout semblait indiquer que l'armée arcourtoise devait l'emporter. Pourtant, au nord, Bélie vit avec surprise que les choses étaient peut-être sur le point de changer. Dès qu'il comprit que l'infanterie sur sa gauche était en difficulté, le capitaine Giametta décida qu'il était temps de passer à l'attaque. La formation qu'avait prise l'ennemi le forçait à un assaut frontal, et malheureusement, il n'y avait aucune place pour la ruse. Le plus fort l'emporterait. Et contre les soldats de la flamme, rien n'était joué d'avance. Giametta fit adopter à ses chevaliers une formation serrée dans l'espoir de pénétrer plus facilement la ligne adverse. En la repoussant vers les bords, les Byzaniens pouvaient paralyser la cavalerie arcourtoise, car il y avait d'un côté l'infanterie et de l'autre la forêt où les chevaliers combattaient avec peine. Avec l'aide des servants d'armes, les chevaliers se mirent en place. Lance calée sous le bras, bouclier devant, visière baissée. On ajustait encore ici et là les bardes des chevaux. Quand il vit que tous les mercenaires étaient en position, le capitaine Giametta donna l'ordre de charger. Aussitôt, les milliers de chevaux partirent au galop, soulevant des nuages de poussière dans le cœur de la vallée. En face, le flanc gauche de la cavalerie arcourtoise réagit aussitôt en se mettant en route, elle aussi. Les deux régiments fonçaient l'un vers l'autre, toutes lances devant. Les chevaliers de Bizagne, portant en bannière l'escargot d'or, étaient tous des mercenaires, et la moyenne d'âge était beaucoup plus élevée que dans l'infanterie galacienne qui se battait à leur côté. Ils étaient plus âgés, mais surtout, ils étaient plus expérimentés, et à la volonté de défendre leur pays s'ajoutait l'espoir de toucher de belles primes. La baronnie ne manquait pas d'or, et les mercenaires savaient que s'ils remportaient ce combat, ils repartiraient chez eux, les poches pleines de pièces. Giametta espérait en tout cas que cela ferait la différence. Cela avait toujours fonctionné jusqu'à présent. Il ne sut dire si c'était grâce à cette promesse dorée ou si c'était la formation qu'il avait choisie.
Mais dès les premiers contacts entre les deux cavaleries, il fut évident que la bisagne prenait le dessus. Les mercenaires continuaient d'avancer, renversant l'ennemi, le forçant à reculer. Les chevaliers d'Harcourt n'arrivaient pas à contenir la horde des bisagnais. Déséquilibrés par les nombreuses lances qui les poussaient au corps, ils tombaient à la renverse et parvenaient rarement à se relever. Certains mouraient sur le coup, se fracassant le crâne dans la chute. D'autres succombaient sous les sabots des chevaux de guerre dressés à fouler l'adversaire. Quand la confusion fut trop grande et que l'ennemi fut trop près pour continuer d'utiliser les lances, les chevaliers de Bisagne sortirent leurs larges épées et frappèrent de tous côtés, d'estoc et de taille, terrassant les soldats de la flamme débordés par le nombre. Alors qu'au sud, l'Harcourt était parvenu à passer au travers de la cavalerie ennemie, au nord, ce fut le contraire. En revanche, les chevaliers du capitaine Giametta ne firent pas la même erreur que ceux du général Rutter. Quand ils eurent atteint le bout de la colonne ennemie, les mercenaires bisagnais, qui connaissaient l'art de la guerre, se rallièrent à leur chef, reprirent leur formation, et le capitaine les emmena alors prendre à revers l'infanterie du général Asley. Le capitaine Susoni n'avait certes pas en Bisagne la même notoriété politique que Giametta, mais il n'était pas moins un habile chef de guerre, et quand la cavalerie de Rutter se présenta devant ses hommes, il leur ordonna de tenir leur position. Il était étonné que ces chevaliers viennent attaquer ainsi l'arrière-garde, car c'était à l'évidence une erreur tactique. Mais il n'était pas pris par surprise. Le piège tendu par les archers cachés dans la forêt avait donc fonctionné. Les cavaliers du général Rutter étaient complètement désorganisés.
« Attendez qu'ils viennent au contact pour attaquer, et s'ils fuient, ne les pourchassez pas !»
cria le capitaine Susoni aux bisagnais, comme les chevaliers courtois n'étaient plus très éloignés. Mais les fantassins de Bisagne savaient ce qu'ils avaient à faire. Voyant la charge des chevaliers d'Harcourt, ils plantèrent leurs piques devant eux pour dresser une herse protectrice sur laquelle viendraient s'échouer les chevaux. Puis ils sortirent leurs armes et se mirent en place. De l'autre côté, le général Rutter, lui, n'arriva pas à temps pour arrêter l'assaut désordonné de ses hommes. Les chevaliers d'Harcourt, éparpillés, désorganisés, chargèrent sans réfléchir, s'imaginant qu'ils n'auraient aucune peine à battre des fantassins. Il était trop tard quand ils découvrirent la rangée de piques, et de nombreux chevaux s'empalèrent sur les fers d'acier brunis. D'autres se cabrèrent pour éviter la mort, faisant chuter leurs cavaliers derrière eux. Et les rares qui parvinrent à passer furent assaillis par les mercenaires bisagnais. L'arrière-garde ne bougeait pas. Comme l'avait ordonné Susoni, les fantassins tenaient leur position, ce qui obligeait les chevaliers d'Harcourt à revenir à la charge sur ce bloc qui refusait de se dissoudre. Un à un, les soldats de la flamme tombaient, incapables de prendre en défaut la stratégie bisagnaise. Après avoir écrasé sans peine les cavaliers galaciens, ils n'arrivaient pas ici à franchir la ligne des fantassins. C'était comme s'ils se jetaient, dociles, contre un mur qui leur était fatal. Et plus ils échouaient, plus cela les rendait furieux. Et cet acharnement incrédule leur coûta plus cher encore. Certains, fous de rage, descendaient de leurs chevaux pour traverser les rangées de piques et des dizaines de fantassins leur tombaient dessus, les découpant en pièces sans aucune pitié. Le sang des hommes se mêlait à celui des chevaux, les cadavres dévalaient la pente, mutilaient, décapités, et s'amassaient en bas de la colline sous le regard terrifié des derniers venus. Quand le général Rutter arriva enfin devant l'arrière-garde ennemie et qu'il ordonna à ses hommes de se replier, il n'était plus, à son grand désespoir, qu'une petite centaine. Bien que les Harcourtois fussent parvenus à traverser le flanc sud, le général Loki n'était pas mécontent de ce que ses hommes avaient pu accomplir depuis leur point stratégique. Cachés derrière une rangée de sapins sur la butte qui surplombait le sud de la vallée, ils avaient arrosé de flèches la cavalerie du général Rutter pendant toute sa traversée. Non seulement ils en avaient ainsi décimé beaucoup, mais en plus, ils les avaient empêchés de se reformer au bas du long couloir. Loki ordonna à ses hommes de ranger leurs arcs longs et de monter à cheval. Il était temps de passer à la deuxième phase de leur mission. Prendre l'infanterie d'Harcourt à revers, pour soulager au centre celle de la Galatie. Pendant que ses hommes se préparaient, Loki se dressa sur son cheval pour scruter la vallée. L'infanterie de Galatie était certes en difficulté, et leur aide ne serait pas superflue. Mais au nord, la réussite semblait avoir souri au capitaine Giametta, et à l'est, la cavalerie arcourtoise s'était effondrée contre l'arrière-garde. La victoire semblait possible. Le plan du conseiller Belli, qui s'était mal engagé, commençait pourtant à fonctionner. L'infanterie d'Harcourt était coincée au centre du champ de bataille et allait bientôt être prise à revers sur ses deux flancs. Il se retourna vers ses hommes, leva son épée vers le ciel et cria
« Galatiens, en souvenir du roi, chargez !»
Et soudain, dans la folie de l'instant, tous furent prêts à mourir pour le souvenir d'Éogan, ce roi trahi dont ils avaient cristallisé le souvenir. Loki, qui connaissait bien ses soldats, avait bien fait de ne pas évoquer la mémoire de la reine Amine. S'il fallait une cause commune à ces combattants galatiens, c'était sans aucun doute la vengeance d'Éogan. Les chevaux dévalèrent la pente comme une grande coulée de lave le long d'un haut volcan. Le vacarme de la guerre était si grand que les Harcourtois ne les entendirent même pas venir. Les chevaliers de Loki, pour conserver le plus longtemps possible leur effet de surprise, ne pénétrèrent pas trop dans la ligne ennemie, s'acharnant au bord et progressant ensuite vers les fantassins qui les découvraient petit à petit, mais toujours trop tard. Du haut de leurs chevaux, ils parvenaient sans peine à assommer leurs adversaires, qui, équipés d'armes courtes, ne s'étaient pas préparés à affronter des cavaliers. Du pommeau ou du plat de l'épée, les hommes de Loki frappaient les crânes qui passaient sous eux, donnant ici et là de violents coups de taille quand s'offrait une gorge ou un bras. Lentement, les chevaliers galatiens semèrent la confusion au sein de l'infanterie ennemie, divisant les troupes, les obligeant à perdre leur position, et donc à relâcher leur attaque sur le front. L'Harcourt et la Terre Brune étaient en train de perdre la bataille.
« Feren, je crois qu'il est temps de nous rendre. »
Mériande Mor-le-Bel s'était assis brusquement sur l'une des chaises de toile qu'on avait disposées sous la tente du poste de commandement.
« Vous êtes fou !»
s'exclama Alroeg en se retournant.
« Nous avons déjà perdu, » insista le comte de Terrebrune. « Aucun mort n'y changera plus rien. Autant arrêter le massacre tout de suite. »«
C'est hors de question! La victoire est encore possible !»
s'exclama Alroeg en frappant le sol avec sa canne.
Les hommes de Ruther sont presque tous morts. Le flanc gauche de la cavalerie vient d'être défait et notre infanterie va maintenant devoir subir 3 assauts simultanés. Nous n'avons plus aucune chance. C'est un massacre.
Les soldats de la flamme ne se rendent pas, intervint Aeditus d'une voix beaucoup plus calme.
Eh bien ceux de Terre Brune, si, répliqua Mériande. Pas sous mon commandement,
s'interposa Alroeg.
Trop de Brunois sont morts. Je vais arrêter cela tout de suite. Ils meurent pour assurer l'avenir de l'île tout entière,
s'écria Alroeg, qui ne décolérait pas. Le comte de Terre Brune se releva. Il vint se placer devant Alroeg et l'évêque. Cette fois-ci, cela ne pouvait plus durer. Comment avait-il pu aller si loin? Rester aveugle si longtemps, il ne pouvait plus cautionner la folie de ces deux hommes.
« Non, » reprit Mériande Mor d'une voix grave et pleine de rancœur.
« Mes soldats meurent pour que vous puissiez imposer votre dieu à tous les hommes de la Gaëlia. Et cela n'en vaut pas la peine. »«
Notre dieu ?» s'offusqua Aeditus.
« Oui, votre dieu, celui qui cause toutes ces guerres. « Celui qui impose sa loi. Je ne suis plus d'accord, Feren. Je dois sans doute vous être reconnaissant de nous avoir aidés quand les Toitanes envahissaient mon pays. Mais ce combat était légitime. Je défendais ma terre. Je défendais les gens qui voulaient y vivre en paix. Le combat d'aujourd'hui n'a aucun sens. Je ne sais même plus pourquoi nous nous battons. Et cela me dégoûte. Alors je vous prie de m'excuser, Alroeg. » « Mais je vais ordonner à mes hommes de se rendre !»
Mériande se retourna sans attendre la réponse du comte et quitta la tente d'un pas décidé. Alroeg, furieux, lui emboîta le pas pour le rattraper. Il était hors de question de baisser les bras, et l'Harcourt avait encore besoin de la Terre Brune. Mais comme il avançait au dehors, son regard se posa sur le champ de bataille,
Lentement, il ralentit son pas. Puis il s'immobilisa. Il sentait son cœur battre. Le soleil à présent éclairait toute la vallée d'une vive lumière. On voyait d'ici tout le terrain des opérations. L'essentiel de la bataille se concentrait maintenant au cœur de la vallée, là où il y avait le plus d'hommes, l'infanterie. Des nuages de poussière se soulevaient partout où le combat faisait encore rage. Chevalier contre fantassin, infanterie contre infanterie, épée contre lance, hache contre masse d'armes, partout le métal s'entrechoquait, le fer déchirait la chair. Et au sol, s'alignaient des milliers de cadavres. Il y avait plus d'hommes par terre qu'il n'y en avait debout. Jamais aucune bataille n'avait été plus meurtrière. Sur les flancs, on voyait ça et là des groupes d'hommes en fuite. D'autres, perdus, attendant les ordres. Ici, un cheval sans cavalier, paniquant au milieu des cadavres. Là, un fantassin à genoux, les bras levés au ciel, attendant qu'une foudre divine vienne le terrasser pour effacer enfin les images terribles qui envahissaient son âme. Partout, la désolation. Une ombre terrible voila le visage de Feren Alroeg, comte d'Harcourt. Jamais il n'aurait cru vivre un instant pareil, voir un spectacle si terrible. Mais tous ces cadavres le ramenèrent à la réalité. Enfin. Ses mains se mirent à trembler. Le visage figé, il se retourna lentement vers l'évêque Aeditus et lui adressa un regard terrifié.
Mérianda a raison, monseigneur. Nous avons perdu.